Voilà, c'était donc le discours fondateur d'Édouard Philippe sur la réforme des retraites, sur ce régime universel. Alors, pour décrypter la méthode que vient d'indiquer Édouard Philippe, les thèmes forts qu'il a mis en avant, Raymond Soubi est avec nous. Bonjour, merci d'être là. Et puis Caroline Morisseau, donc qui suit ce dossier pour BFM Business. Caroline, peut-être en deux, trois mots, qu'est-ce que vous avez retenu de ce qu'a dit Édouard Philippe?
Deux points essentiels, hein, absolument fondamentaux. D'abord, Édouard Philippe et le gouvernement veulent vraiment se donner le temps. Il a martelé ça, il va prendre tout le temps nécessaire, non seulement pour la concertation. On voit que le calendrier a une nouvelle fois été décalé, puisqu'il nous promet maintenant un projet de loi d'ici l'été 2020. Donc rien ne sera voté avant 2020, le temps de la concertation. Et puis surtout, et c'est sans doute encore plus important, il promet une transition extrêmement lente. Alors il a répété que le nouveau système entrerait bien en vigueur à partir de 2025, qui concernerait les gens nés à partir de 1963
au plus tôt,
donc sous-entendu ça pourrait encore être décalé, ne pas concerner ces gens-là, ça pourrait encore être décalé dans le temps. Il promet surtout une transition extrêmement lente, hein, la bascule de l'ancien système vers le nouveau système va se faire de manière extrêmement lente sur 15 ans, de sorte, dit-il, que le nouveau système n'entrera en vigueur entièrement, finalement, qu'à partir de 2040, ce qui laisse le temps, dit-il, de discuter profession par profession et de trouver des solutions sur tous les points d'achoppement, en fait, avec un certain nombre de métiers.
Il a parlé du cheminement vers la maison commune qui prendra son temps, et tant que ce cheminement ne sera pas terminé, il n'y aura pas, justement, de maison commune pour les 42 systèmes, en l'occurrence. Raymond Soubi, donc on va rappeler que vous avez été conseiller spécial sur les retraites, notamment, hein, de Nicolas Sarkozy. Comment vous avez trouvé ce discours de la méthode, en quelque sorte, les convictions mises en avant, la manière dont il a un peu essayé de déjouer l'aspect, le transition sur la question de l'âge pivot, est-ce que vous trouvez qu'il a bien su naviguer, d'être ferme, sans inquiéter?
Écoutez, le ton était très ferme. La détermination d'arriver un jour, je dis bien un jour, au système universel était affirmée. Et le tout était enrobé d'infinies prudences qui sont, pour faire très simple, d'abord il y a la question financière. Je rappelle que la question financière dont on parle, âge pivot ou pas âge pivot, n'est pas liée à la réforme systémique, mais est liée à l'état, aujourd'hui et dans les prochaines années, des finances des retraites. Et sur ce point-là, il doit être dit deux choses. La première, c'est qu'il fallait encore refaire les prévisions qu'il va redemander au corps. Ce seront les cinquièmes en peu d'années. En fait, il a l'espoir que les prévisions seront moins mauvaises que les dernières prévisions, sous-entendu que l'enjeu financier sera plus faible. Et quant au choix qui a beaucoup occupé tout le monde ces dernières semaines après l'intervention du président entre l'allongement de la durée de cotisation et l'âge pivot,
gauche-droite, il a dit.
Vous avez remarqué, oui. Il a dit sans doute en même temps. Enfin, il n'a pas dit en même temps, oui. Mais c'est ce que ça voulait dire. Donc, en réalité,
on va trouver des systèmes qui permettront de s'appuyer sur ces deux facteurs.
On n'a pas fait le choix. Oui. Donc, ce n'est pas ni l'un ni l'autre. On ne sait pas pour l'instant. Et puis, sur le fond de la réforme, le point essentiel qui a été dit, c'est que implicitement, c'est un tapis de bombe. Parce que, en fait, quand vous fusionnez 42 régimes en un régime, vous avez 42 tigres qui sommeillent jusqu'à présent, qui vont se réveiller en disant « et moi, et moi, et moi ». Et le problème social de la réforme n'est pas un problème global, c'est un problème par corporation. On le voit demain, régime spécial de la RATP. Et là, il est d'une infinie prudence, puisque, comme cela avait très bien dit, il donne le temps au temps. Oh là là, sur l'application, on a le temps. Deuxième point qui est très important, il dit pour chaque profession, il va y avoir des concertations particulières avec les ministres concernés, et a-t-il ajouté, et ça ce n'est pas un détail, si tout ça n'est pas au clair au moment où le projet de loi sera adopté, ce ne sera pas dans le projet de loi. Sous-entendu, le projet de loi n'apportera pas de réponse claire et évidente pour tous les Français. Il y aura d'autres textes qui viendront plus tard. Et puis il a dit un autre point très important, jusqu'à présent le dogme c'était les générations nées après 1963 sont soumises à la réforme, avant elles sont exonérées. Il a dit il ne faut pas exclure que on exonère des gens nés avant 70, avant 72, enfin, il n'a pas cité de chiffres. Des syndicalistes disent avant 70. Sous-entendu, on sort des parties entières d'actifs de la réforme, donc ils n'entreront pas en rébellion. Et puis, il ajoute un autre point très important. Il a passé très vite là-dessus, mais il est très important. Il a dit qu'il faudra des compensations.
Oui.
Et il s'est attardé à une population spécifique, les enseignants.
Les enseignants, les chercheurs et les militaires.
Oui, parce qu'ils sont très perdants dans la réforme. Aujourd'hui, calculé sur les 6 derniers mois, sur l'ensemble. Et puis, surtout, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de primes, le fait d'intégrer les primes, ce qui était une compensation annoncée, ne va pas avoir beaucoup d'effet. Et donc, il annonce qu'il y aura des mesures de compensation. Entendez par là, même si le mot n'a pas été prononcé, par exemple pour les enseignants, des mesures salariales.
Oui, il a dit qu'il faut repenser, je cite le Premier ministre, il faut repenser la rémunération
des chercheurs. Alors, vous vous rendez compte, si on commence à repenser la génération de pantiers...
Et les carrières même.
Et les carrières de pantiers de fonctionnaires. Bon, c'est un chantier gigantesque qui, bien entendu, ne sera pas prêt à l'été prochain. Donc, je crois que c'est un discours déterminé dans le temps, en résumé, avec encore beaucoup d'incertitudes, le temps laissé au temps, et en vérité, le gouvernement, le président de la République, ne veulent pas prendre de risques. Donc, ils auront toutes les négociations qu'il faut, parce que ça veut dire qu'il va y avoir 40 négociations en même temps.
Oui, 42, même.
Même 42, etc. Plus les transversales, comme il a expliqué. Et que donc, le gouvernement va y aller avec une prudence infinie.
Il est presque midi, vous venez donc de suivre sur BFM Business le discours du Premier ministre sur ce système universel que veut créer le gouvernement en se donnant du temps. Juste, Caroline Morisseau, est-ce que vous pouvez nous redonner les quatre points clés d'Edouard Philippe ?
Deux points essentiels en réalité. D'abord, il va se donner tout le temps nécessaire. D'abord, au niveau de la concertation, puisque ce projet de loi ne sera voté qu'à l'été 2020, à condition d'ailleurs que le gouvernement tienne son calendrier. Sur la transition, on sera aussi sur une transition extrêmement lente, sur 15 ans. Donc le dispositif entrera bien en vigueur à partir de 2025, mais il n'entrera pleinement en vigueur qu'à partir de 2040. Et Edouard Philippe sous-entend qu'un certain nombre de professions, finalement, avec qui il va y avoir des négociations au cas par cas, ne pourraient être concernées par cette réforme des retraites qu'à partir de 2040, puisqu'il veut se donner le temps de trouver toutes les solutions. Et puis sur la question des économies, hein, on sent que le Premier ministre lâche du lest. On n'est pas très loin d'avoir atteint l'équilibre, alors qu'on sait que jusqu'ici il tablait sur les prévisions du Corps. C'est à ces prévisions...
Du Conseil d'orientation des retraites, qui
nécessitait d'aller chercher 10 milliards d'euros d'ici 2025, au moment où le système entrera en vigueur. Là, il demande au Corps de faire de nouvelles projections et on sent bien qu'il est prêt à renoncer à un certain montant d'économies, ce qui était l'un des principaux points d'achoppement avec la CFDT.
Dans ce discours de la méthode par rapport à ce système de retraite, lorsqu'il dit que le projet de loi n'est pas écrit, est-ce qu'il faut le croire? Et surtout, il dit on ne part pas de rien, on ne refait pas la négociation. C'est un peu ce qu'on reprochait en tous les cas, ce qu'on attendait ici ou là, notamment la part des partenaires sociaux. On ne s'assoit pas sur le rapport de Levoy, on part du rapport de Levoy.
Oui, clairement le rapport Delvaux est déjà très précis. On en avait d'ailleurs parlé ici. Et on ne parle pas de rien. Donc, en réalité, les principes qui sont dans le rapport Delvaux, pour l'essentiel, vont être maintenus. Mais lorsqu'on le lit bien, il reste 130 questions à l'esprit qui sont celles qui vont être évoquées. Donc, on ne part pas de rien, mais il ne faut pas croire que le rapport Delvaux, en son état aujourd'hui, est un avant-projet de loi. Il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est ce qu'a indiqué le Premier ministre.
Est-ce que ça a de quoi déminer le terrain? Je ne sais pas qui répond. Caroline Morisseau, BFM Business.
Alors, il y a ceux qui, de toute façon...
Demain, la RATP, avec un taux de grévistes
énorme. Il y a ceux avec qui
énorme.
Il n'est pas question d'aller chercher un compromis, un certain nombre de professions. Alors, on va voir demain ce que donne effectivement la mobilisation à la RATP. Il y a 4 journées de mobilisation prévues. Celle de demain avec la RATP. Celle du 16 septembre avec un certain nombre de professions, avocats, infirmières, pilotes, personnel navigant. Et puis, il y a Force ouvrière et la CGT qui, de toute façon, sont opposées au principe même de l'instauration d'un système universel à points. Et eux, il sera extrêmement difficile de les rallier à cette réforme. En revanche, il y a des éléments là, on sent bien, et de nouveau, une nouvelle main tendue à la CFDT sur le montant des économies où là, a priori, le gouvernement est prêt à lâcher du lest, à faire un peu marche arrière. Donc oui, il y a des éléments extrêmement rassurants pour les partenaires sociaux qui, eux, à la base, soutiennent cette réforme et qui commençaient à remettre en cause leur soutien.
En même temps, ce qu'on qu'on peut se dire, Raymond Soubi, c'est que le Premier ministre lui-même a dit, bah, finalement, le système, il n'est pas aussi en déséquilibre que ça. On va voir les nouvelles prévisions du Conseil d'orientation des retraites, donc en novembre. Mais Yves Verrier, le secrétaire général de Force ouvrière, qui était mon invité il y a quelques jours, disait, mais à la limite, pourquoi faire une retraite, puisque finalement, le déséquilibre financier n'est pas aussi important que ça, et puis que ça fonctionne.
Oui,
mais c'est s'il n'y a pas de déséquilibre, comme dit le Premier ministre,
oui.
So what?
C'est la question initiale qui était celle de la campagne présidentielle. En vérité, toutes les réformes depuis 30 ans en France ont consisté à, un, maintenir l'équilibre financier des régimes par différentes mesures sur lesquelles je glisse, parce qu'elles sont techniques, et deuxièmement, à rapprocher progressivement les régimes. Par exemple, les régimes spéciaux sont progressivement rapprochés du régime général. Et on aurait pu, en effet, continuer sur cette voie, mm-hmm. prendre les mesures, et ça, c'est ce que dit Yves Verrier. Bon. Et le président de la République a été séduit par une réforme fin du monde, systémique, comme aucun pays au monde en réalité, sauf peut-être la Suède de l'a appliqué, c'est qu'il y a un régime unique pour tout le monde, là où l'histoire a créé des régimes par corporation. Et donc ce que dit Yves Verrier, s'il dit, entre nous soit dit, c'est pas ce qu'il dit, c'est pourquoi s'embêter, mais j'imagine, c'est comme ça que moi, ouais. je l'ai traduit, que pourquoi s'embêter à soulever autant de, à réveiller autant oui. de tigres pour oui, un tel sujet, alors qu'au fond,
c'est ma question.
Plus simples auraient ouais. permis de maintenir ouais. l'équilibre des régimes ouais. tels que. Mais je crois qu'il y a une ambition très forte là-dessus, au départ. Il faudrait lui poser la question d'Emmanuel.
Emmanuel Macron, la prochaine fois qu'il vient ici en studio, on lui posera la
question. Emmanuel Macron, et qu'il y tient toujours, parce qu'il a dit, cela dit, comme Emmanuel Macron a connu l'épisode des Gilets jaunes, et qu'au fond, plus jamais ça, parce que c'est quand même ouais. un choc, non. ça a été un ouais. choc vraiment pour lui, plus de mouvements avec autant de bombes potentielles, il y faut, c'est ce qu'a dit le Premier ministre, beaucoup de temps et beaucoup d'exceptions.
Oui, il a dit quelque chose d'intéressant à propos des Gilets jaunes, en disant une des raisons, c'était le non-consentement à l'impôt. Donc, il ne faut pas refaire la même chose par rapport donc à la réforme des retraites, par rapport à sa retraite, parce que ça concerne tous les Français. Mais le point de départ de la retraite, de cette réforme souhaitée par le président de la République, c'est en fait de maintenir un haut niveau de retraite. Il l'a redit, le Premier ministre. Est-ce que cette ambition-là, est-ce qu'elle est réaliste? Raymond Soubi, Caroline Morisseau.
Comme dirait M. de la Pélisse, elle est réaliste si on peut les payer, les retraites.
Oui, ça, je vous remercie.
Et donc, non, mais pardon. Mais donc, ça renvoie au sujet de l'équilibre financier. Bon. Oui. Et le propos d'une réforme globale est moins au niveau des retraites que d'avoir une équité entre les futurs retraités. C'est-à-dire que pour 1 euro cotisé, d'ailleurs c'est ce qu'il a dit lui-même au départ, pour 1 euro cotisé, il y ait le même rendement. Mmh. Jean-Paul Delevoye vous dit, pour 100 euros cotisés, 5,5 euros de retraite. Donc, je suis par elle-même, la retraite, ce système-là, ne favorise pas un haut pension, un haut niveau.
Oui, mais or, c'est la base de cette réforme souhaitée par
Emmanuel
Macron.
Non, la base de la réforme souhaitée, c'est surtout l'équité.
L'universalité, la justice.
L'universalité.
Oui, bon. Mais c'est aussi d'assurer une retraite.
L'universalité, la simplicité, la 42 régime à régime, et l'équité. Mais assurer, en fait, un haut niveau de retraite dans la durée, ça, c'est un problème financier. Or, aujourd'hui, on sait très peu de choses sur les flux financiers à l'intérieur du nouveau système. Et d'ailleurs, le Premier ministre a dit qu'il faudrait les examiner, et il a très peu dit là-dessus.
Ouais. Caroline ?
Non, c'est réaliste qu'à condition que le gouvernement atteigne son objectif, son but, c'est-à-dire qu'il arrive à mettre fin à tous les régimes spéciaux, à tous les avantages qui sont liés aux régimes spéciaux, qui là, pour le coup, peuvent permettre d'harmoniser les règles et de partager le gâteau à un plus grand nombre, et qu'à condition également que le gouvernement ne prévoit pas un pilotage qui là aussi est un point d'achoppement.
Absolument, la gouvernance.
Dépendra de la gouvernance, du pilotage du point et du fait que le gouvernement ne veuille pas indexer la valeur du point sur la conjoncture.
Oui, là-dessus, alors Philippe, il a mentionné deux fois la gouvernance avec les partenaires sociaux, c'est important. Il a dit, la grande question, c'est qui va fixer la valeur du point. J'ai envie de dire, il a juste dit ça. Donc, il ne s'est pas attardé sur cette question qui est pourtant la question fondamentale et source d'inquiétude.
Alors, Jean-Paul Delevoye a dit dans son rapport qu'il fallait indexer la valeur du point sur les salaires. Mais a priori, rien ne dit que c'est suffisant, puisque les déficits dépendent de quoi éventuels. Ils dépendent des rapports actifs-inactifs, et puis ils dépendent surtout de la conjoncture. Quel va être le taux de croissance? Les prévisions du corps à 10 ans, 20 ans, sont en fait sur la croissance des revenus d'activité.
Oui, et ça, on n'en sait rien. Ce sont des hypothèses quand même, des rapports du corps.
On n'en sait rien.
Vous savez mieux
que
moi.
On n'en sait rien.
Oui.
Donc, on n'en sait rien. Et donc, vous avez raison de dire qu'il faudra ajuster la valeur du point pour maintenir l'équilibre du système. Ce qu'ont fait d'ailleurs les partenaires sociaux dans les régimes de retraite. Ça peut être très dangereux. Moi, j'ai vécu, à l'époque élyséenne, j'avais examiné le système suédois qui avait été créé dans les années 90, duquel s'inspire directement la réforme d'Emmanuel Macron. Eh bien, à la suite de la crise financière de 2007, boum, le régime s'est effondré et le gouvernement suédois a dû le débrancher. Et donc, la question de la gouvernance et qui décide au fond de l'évolution des paramètres, c'est un sujet central. Et aujourd'hui, on dit, il y a un conseil avec des partenaires sociaux. D'ailleurs, certains vous disent, on n'est pas assez représentés, bref, etc. Et puis, il y a l'État. Mais qui décide, en définitive, du sujet ? Si vous voulez mon sentiment, la France étant la France, à la fin de la fin, je pense que ce sera l'État.
Oui, voilà. Et c'est la grande crainte des syndicats, parce que, Caroline, on voit bien...
C'est la grosse crainte de Force Ouvrière, et c'est la principale raison pour laquelle Force Ouvrière est radicalement opposée à l'instauration d'un système universel à points, parce qu'il a l'impression que ça revient...
Oui, il y a déjà l'assurance chômage, le gouvernement.
...à Bercy, et que c'est à Bercy, en fonction de l'évolution de la croissance et de la conjoncture, qu'on fixera la valeur du point, et que, par définition, le gouvernement sera tenté de baisser la valeur du point, et donc les pensions...
Sur ce point, je rappelle simplement que dans les régimes complémentaires de retraite aujourd'hui du secteur privé, le régime Arco-Agirc est géré, décidé par les partenaires sociaux. Oui. Et entre nous soit dit, ils ont plutôt bien réussi.
Et là, ça marche justement, on n'arrête pas de le citer en exemple.
Et ce n'est pas endetté. Donc, c'est que les partenaires sociaux...
Quand ils veulent, ils peuvent.
Exactement.
Oui. 95%, aucune retraite à moins de 95% du SMIC. Possible, pas possible.
Ben ça, c'est encore une question financière. Aujourd'hui...
En tout cas, ça a été dit, voilà.
Oui, non, Jean-Paul Delevoye a dit 85% du SMIC.
Oui, là...
85% du SMIC, et les syndicats disent, c'est insuffisant, il faut faire plus.
Est-ce que la grande question qu'on peut se poser avec ça, on va prendre le temps, d'accord ? Enfin, le temps, il est quand même assez bien borné. C'est-à-dire que d'ici décembre, toutes les discussions, les concertations seront terminées. Prévision du corps demandée en novembre. Et après, un projet de loi, donc, d'ici la fin de la session parlementaire. Ça fait quand même très court.
Ça fait très court et en même temps, ça intervient... moi, je considère là plutôt que le gouvernement joue la montre. Ça intervient après 18 mois de concertation, un énorme travail, un rapport de près de 200 pages. On va avoir une consultation citoyenne, mais Jean-Paul Delevoye a déjà fait le tour de France, réuni les Français, discuté de cette réforme, fait de la pédagogie. On a déjà eu une consultation citoyenne sur Internet.
Donc vous considérez que la concertation, on n'en a plus besoin.
Non,
même les partenaires sociaux s'impatientent et ont envie qu'on en arrive enfin aux
arbitrages.
Vous avez deux types de concertation, comme l'a exposé le Premier ministre. Vous avez la concertation classique avec les partenaires sociaux sur les principes et le financement. Mais le cœur du sujet, c'est ce que vont devenir les gens dans les corporations, les 42. Et là, il a dit qu'il y aura une discussion par corporation, qu'elle ne sera pas terminée en juillet, il l'a dit, et que tant qu'elle ne sera pas terminée, le projet de loi prévoira que rien ne s'appliquera à cette corporation. Il nous l'a dit tout à l'heure. Ce qui veut dire que vous allez avoir des discussions un peu sur des sujets globaux jusqu'en juin, avec un projet de loi de principe et quelques mesures, et puis ensuite vous allez avoir des concertations qui vont continuer. Vous avez là un sujet de long terme avec toute une série de professions, parce que ça va être beaucoup plus compliqué et ce ne sera pas terminé en juin prochain.
Le cheminement vers la maison commune.
Voilà,
le cheminement vers la maison commune. Souvenir de cette expression. Raymond Soubise, puisque vous avez été à l'Élysée pendant longtemps, c'est une réforme, vous dites, tiens, chapeau, il va le faire, c'est bien, on aurait pu nous le faire avec Nicolas Sarkozy, vous dites, c'est une réforme finalement qui ne sert pas à grand-chose.
Non, pour l'histoire, à l'époque de Nicolas Sarkozy, je rappelle que les régimes des retraites s'effondraient suite à la crise.
Oui.
Il y avait 30 milliards d'euros de déficit par an les années suivantes. Donc la mesure a été une mesure forte, passée de 60 à 62 ans, sur un temps très court, avant 2017. Donc ça rapportait quand même, l'ensemble plus quelques mesures, 30 milliards d'euros par an. Oui. Donc l'objectif fondamental était purement financier et de sauver les régimes de retraite.
Mais là, vous tournez un tout petit peu autour du pot. Ma question, c'est, est-ce que cette réforme d'avoir une retraite universelle, est-ce que pour vous, qui êtes un des meilleurs connaisseurs de la chose sociale, comme on dit, est-ce que Ça, c'est bien. Enfin, je veux dire, c'est courageux.
Dans les principes, on ne peut pas dire que c'est mal. C'est très bien. Là où vous aviez de nombreux, vous n'en avez qu'un. Chacun est simple, connaît ses droits. C'est les droits du voisin. On est tous égaux. On s'aime. C'est parfait.
Mais c'était donc, la logique. Non, c'était dans l'histoire. Révolte.
Simplement, je
cette rationalisation.
Moi qui suis un réaliste, j'essaie d'être réaliste, je constate qu'en en Europe, aujourd'hui, personne n'applique le système universel dans sa pureté. Il y a plein d'exceptions. Bon, ouais. Si on prend la Suède, qui est le système de référence, ouais. La Suède, bien sûr qu'elle a un régime universel, mais deux remarques. Un, lorsqu'elle l'a créé, elle avait des excédents considérables, ce qui n'est pas l'autre cas. Et deux, elle a, il faut le savoir, on ne le dit jamais, des régimes de capitalisation très développés.
Ça, à mon avis, ça va être le prochain sujet. On voit déjà quand même sortir deux, trois sujets sur cette question. Sur le peut-être dernier point, parce que c'était très attendu, le en même temps sur la durée et en même temps sur l'âge pivot, est-ce que vous pensez que c'était juste pour gagner du temps que le Premier ministre s'est exprimé sur cette question ou on va trouver effectivement un système qui permettra le en même temps?
Non, je pense qu'effectivement, le point d'atterrissage, on voit bien que la piste qui tenait la corde jusqu'ici, enfin jusqu'au rapport de loi mi-juillet en tout cas, c'était le recul de l'âge de départ en instaurant un âge pivot, une retraite à taux plein à 64 ans assortie d'un système de décote sur code. Depuis la rentrée, c'est plutôt l'allongement de la durée de cotisation, ce qui satisfait plutôt la CFDT, ce qui va dans son sens, même si elle n'y est pas totalement favorable. Et là, on voit bien que Édouard Philippe s'oriente plutôt vers un mix entre les deux. Et ce sera sûrement le point d'atterrissage pour contenter tout le monde, finalement, un peu. On joue un peu sur la durée de cotisation et d'un autre côté, on reporte un peu l'âge de départ à la retraite.
En conclusion, Raymond Soubi, il a déminé le terrain ?
En conclusion, il a déminé le terrain. En réalité, une apparence très forte, une détermination très forte de mener la réforme au bout, mais le bout s'éloigne dans le temps. Oui. Donc, il est beaucoup plus loin avec des mesures quand même d'adaptation et des mesures d'exclusion d'une partie de la population des actifs de cette réforme qui fait qu'en réalité, c'est un discours d'extrême prudence.
Merci beaucoup Raymond Soubi d'avoir été avec nous. Merci à Caroline Morisseau. Voilà. Le RACH reprend ses droits. Dans un instant, c'est Gaspard Koenig. Bah, je vous poserai la question là-dessus. Lui, le grand libéral. Et il publie La fin de l'individu. Vaste sujet. À tout de suite. Et après, c'est Jean-Claude Trichet qui sera notre invité.
BFM Business, midi, leur H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité, c'est le libéral, celui qui porte le flambeau du libéralisme, Gaspard Koenig. Gaspard Koenig, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous revendiquez d'être le libéral.
Aucun problème avec ce terme.
Aucun problème avec ce terme. Vous êtes bien le seul en France, en tous les cas. Mais vous allez même libéral-libertaire, parfois, sur des sujets de société. On peut voir ça comme ça. Vous publiez un livre qui est honnêtement très intéressant, même si, comme vous l'avez vu, je n'ai pas tout lu. C'est un livre qui s'appelle « La fin de l'individu », c'est « Voyage d'un philosophe au pays de l'intelligence artificielle ». Donc vous avez été à San Francisco, vous avez été à Tel Aviv, vous avez été à Pékin, vous avez été à Washington. Mais moi, ce que j'ai, qui m'a intéressé comme phrase, vous dites « À la limite, j'avais des raisons personnelles d'écrire ce livre, parce que je suis libéral. Libéral, je défends l'idée d'être un individu autonome, libre de ses choix et responsable de ses actions. Donc, il est censé faire usage d'une forme de libre arbitre. Oui. Or, l'intelligence artificielle, toutes les nouvelles technologies, on le voit bien au quotidien, avec toutes les applications qui nous prennent le dessus par rapport à notre libre arbitre, mais c'est vrai, évidemment, à plus grande échelle. Vous en avez conclu quoi ? Qu'on est, en fait, on est une forme de soumission, de domination de ces nouvelles machines. On perd notre sens humain.
C'est la question que pose Yuval Harari et qui m'a intéressé dans la fin d'Homo Deus, où il explique exactement cela, et qui s'accompagne d'une remise en cause du libre-arbitre sur le plan académique. Qu'aujourd'hui, les neurosciences, les nouvelles psychologies, l'économie comportementale, vous expliquent à juste titre, et avec d'excellentes démonstrations, que nous sommes pleins de biais cognitifs, que nous ne savons pas ce qui est bien pour nous, et que donc finalement, on en conclut très aisément qu'il suffit de se laisser guider. Et quoi de mieux pour se laisser guider que des systèmes tels que ceux développés aujourd'hui industriellement par l'intelligence artificielle, qui permettent de personnaliser et d'optimiser les recommandations qu'on offre à chacun pour choisir la route dans son quotidien, mais aussi pour choisir son partenaire amoureux, pour choisir son métier, pour choisir son éducation, pour tout choisir. Et au fond, c'est très simple et très tentant de se laisser guider, puisque
il de génère... se soumettre presque, parce que guider, ça veut dire qu'on est encore, encore un peu en possession de quelque chose.
Évidemment, la frontière est floue, et je pense qu'il y a un travail à faire, d'abord métaphysique, pour réhabiliter le libre arbitre aujourd'hui, réhabiliter l'idée de responsabilité, et voir comment on peut être responsable dans un univers où il y a de l'IA partout, parce qu'aujourd'hui, vous voyez, c'est très facile de glisser en disant, puisque l'individu est constamment nudgé, comme on dit en anglais, il n'y a pas vraiment de traduction française, mais il est constamment incité à prendre un certain chemin, comme il est pris dans un champ de tourniquet, qui est une métaphore que j'emploie parce que j'ai bien musé en Chine, qui avait cette installation. Passer d'une voie à l'autre, on lui dit toujours, tu as la possibilité de refuser, mais au fond, qui refuse une recommandation de livre, qui refuse la recommandation de Waze, qui prend encore le temps d'essayer de réfléchir par soi-même, eh bien, au fond, il est très facile ensuite de dire, dans ce cas-là, pourquoi l'individu serait toujours responsable juridiquement ? Et on voit, par exemple, se développer la question de la personnalité juridique des robots, en disant, s'il y a un accident, comme c'est la voiture qu'elle choisit, c'est la voiture qui va être responsable, et les systèmes d'assurance se mettront d'accord tout seuls. On va aussi dire, pourquoi l'individu, finalement, n'est plus responsable économiquement non plus. Et on voit en Chine être contestée l'idée même de marché, en disant, puisqu'une IA peut tout organiser de manière optimale, pourquoi est-ce qu'on a besoin encore du prix comme signal pour fournir les incitations ? On n'a qu'à simplement faire les meilleures recommandations pour tous, et ça sera optimal pour le bien-être du groupe. Et la même chose s'applique à la recherche d'emploi, par exemple. J'ai visité des startups à Los Angeles qui vous expliquent que désormais, il n'y a plus besoin de dire à quel emploi on veut postuler. On donne simplement toutes les données possibles sur soi-même. Et à partir de cela, l'IA
va
vous dire quel est le meilleur job pour vous aujourd'hui, auquel vous n'avez pas forcément pensé, ni postulé, mais qui semble conforme à votre personnalité, disons, réelle, au-delà de vos préférences explicites.
Donc,
remet en cause quand même tout notre modèle démocratique, économique, juridique. Et c'est ça qui m'intéresse. Et ce qui m'intéresse, c'est de comprendre aussi ce qu'on peut faire, et est-ce qu'il y a encore quelque chose à sauver, et pourquoi le sauver, d'ailleurs.
Moi, c'est la question que j'allais dire, c'est qu'à vous entendre, tout ce que vous dites, c'est déjà quasiment la réalité d'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que vous appelez le libre arbitre aujourd'hui ? C'est quoi le libre arbitre aujourd'hui ? Puis finalement, est-ce qu'on en a besoin ? Ou est-ce que... Il y a plus des philosophes qui disent qu'effectivement, c'est l'essence même d'un être humain, mais en même temps, finalement, peut-être que non. On évolue, on est au 21e siècle.
Tout à fait, et il y a beaucoup de gens, notamment en Chine, qui vous disent que la fin de l'individu, qui est le titre de mon livre, c'est une excellente nouvelle, et que cet individu égoïste, bourré de travers, de caprices, de biais, il est temps que la civilisation avance et éradique cette espèce d'enfant des Lumières dont nous n'avons plus besoin. Et je pense que c'est vrai que ces systèmes maintenant envahissent l'ensemble de nos existences, on s'en rend peut-être mal compte, et on continue à parler des vieux sujets, si je puis dire, mais c'est au cœur de la crise démocratique actuelle, c'est au cœur du scandale de Cambridge Analytica, c'est au cœur des élections de Trump ou du Brexit. Donc ce sont parce que on a réussi à concevoir des incitations assez puissantes pour faire basculer un certain nombre de votes, et au fond, il y a beaucoup de gens dans le monde de l'IA qui seraient très confortables avec l'idée de mettre fin à la démocratie, qui est un mode de délibération collective extrêmement sous-performant.
J'ai envie de dire, on y va dans le sens où même notre quotidien est déjà complètement encadré, en fait. Et à partir de là, ça nous formate forcément d'une manière différente, quoi. Donc, à partir de là, je veux dire, tout en découle. Mais déjà, aujourd'hui, on est formaté. On est robotisé, si vous voulez.
La question que va se poser aux décideurs publics, c'est de savoir si, par exemple, quand la Smart City va émerger et qu'il y aura des voitures autonomes partout, qu'est-ce qu'on fait du type qui veut toujours conduire une voiture manuelle déconnectée ? Est-ce qu'on le force à se connecter pour assurer le bien-être du groupe, parce que ça va éviter les accidents, ça va éviter les embouteillages ? Ou est-ce qu'au contraire, on force les assurances à lui offrir un produit spécial au nom de la liberté individuelle et en sachant que ça va créer des dommages pour le reste du groupe ? Parce qu'il faut savoir que quand vous utilisez Google Maps aujourd'hui, Google Maps ne vous donne pas, et c'est vrai pour tous les systèmes d'IA, ne vous donne pas le meilleur trajet pour vous. Et ça, c'est très différent par rapport à un judiciaire. Il vous donne le meilleur trajet pour vous et le reste du groupe pour vous orienter sur... C'est pour ça qu'on peut... J'avais rencontré un prof à Stanford qui était très fier de me dire que lui, il pouvait battre Google Maps. Parce que dans les coins qu'il connaissait très bien, il savait quelle était la solution
la meilleure pour lui. Moi, c'est ce que je fais tout de suite. C'est ce que je fais tout le temps.
Exactement. Mais alors
avec
là, on Waze, dire,
Google Maps.
Peut-être dans 10 ans, on vous dira, mais c'est égoïste comme comportement. Vous n'avez pas le droit de faire ça, parce que vous allez nuire aux autres. Et donc, on va vous obliger, surtout quand vous êtes dans une voiture autonome où vous n'avez plus le choix de suivre ou non l'itinéraire, on va vous obliger à suivre l'itinéraire qui est le meilleur pour le groupe. Et ça, c'est très collectiviste d'une certaine manière, et c'est pour ça qu'en Chine, c'est complètement plébiscité et encouragé par le gouvernement. Et donc, je pense qu'il faut d'abord assumer philosophiquement l'idée que si on veut rétablir l'individu dans cet univers, ça va se faire au détriment. La smart city ne va pas être si smart, le smart grid ne va pas être si smart, et donc ça va se faire au détriment de l'efficacité et au détriment du bien-être. Et ça, il faut l'assumer parce qu'il n'y a pas 15 000 manières de poser le débat. Et ensuite, il faut dire...
Encore sur le bien-être, il y en a certains qui ne sont pas d'accord avec vous, au contraire, qui disent que c'est votre bien-être, il est bien mieux assuré avec l'IA que...
Oui, c'est ce que je dis.
Ah oui, d'accord, oui.
Voilà. Et donc, est-ce qu'on est prêt à sacrifier
une partie
de ça? Ensuite, il faut dire, est-ce que ça vaut le coup? Et pour moi, ça vaut le coup d'abord parce que je pense que le mouvement de la civilisation, ce n'est pas l'optimisation, c'est l'individu. Et surtout, plus profondément, je pense que... les gens qui tournent autour de l'IA, les utilitaristes, ont un peu confondu optimisation et progrès. Et le progrès, ça vient aussi de la divergence et de l'erreur. Et je leur posais souvent comme question, imaginez que les bactéries de la soupe originelle, au tout début de l'histoire de la vie, imaginez qu'on ait eu un super système d'IA pour assurer leur bien-être et leur confort. Eh bien, jamais ne serait apparu des espèces vivantes supérieures, parce qu'elles seraient restées, on les aurait organisées dans leur petite soupe, d'une manière qu'elles souffrent le moins possible et qu'elles soient le plus heureuses. Mais la première qui aurait une mutation génétique et qui aurait commencé à diverger, on lui aurait dit non, toi, tu te comportes pas correctement, on va te remettre dans la norme, parce que ce que produit l'IA, c'est de, par la statistique, et c'est de la norme.
Dans cette forme de voyage initiatique du libre arbitre, Gaspard Koenig, est-ce que les mentalités sont très différentes? Les Chinois, vous avez bien expliqué, effectivement, ils sont tellement nombreux qu'on voit. On voit assez bien leur démarche. Mais lorsque vous avez été aux États-Unis, lorsque vous avez été à Copenhague, lorsque vous êtes allé en France, à Tel Aviv, est-ce qu'on est tous un peu sur les mêmes interrogations ou pas?
Pas du tout. Alors d'abord, le contraste entre l'Asie et l'Europe ou l'Occident sur ce sujet est extrêmement fort. Après, les questions que se posent les Américains sont quand même ressemblent aux questions qu'on se pose nous. Et je dirais que le monde occidental est traversé par une tension extrêmement forte parce qu'on nous a appris depuis 2 ou 3 siècles que les libertés individuelles et la prospérité économique allaient de pair. Et que c'est parce qu'on avait un état de droit, parce qu'on avait le droit des contrats, parce qu'on avait les brevets, etc., que nous pouvions nous développer économiquement et regarder ces dictatures terribles qui échouent et qui n'arrivent pas à produire du bien-être pour leur population. Or, aujourd'hui, ces deux termes, prospérité et liberté, entrent en conflit. Et on voit bien que pour avoir un smart grid et donc quelque chose qui soit mieux pour l'environnement, plus efficace, moins consommateur d'énergie, etc., eh bien, il faut ramasser les données de tout le monde. Et donc, il y a une tension terrible entre le fait de dire vous avez droit, on vous protège vos données, et le fait de dire il faut bien construire des systèmes efficaces collectivement. Et troisièmement, le fait d'essayer de ne pas être complètement à la traîne dans la compétition économique, parce qu'il est clair que la Chine, qui n'a pas de limite sur l'utilisation de l'IA, prend un avantage économique colossal. Et est-ce que la puissance prévalente économiquement peut ne pas être impérialiste, c'est une question qui reste ouverte, en sachant que l'impérialisme numérique va prendre une forme nouvelle. J'avais rencontré quelqu'un à Washington dans un think tank qui tourne autour des affaires militaires. Il me disait, la guerre, c'était pas fait pour conquérir des territoires, c'était fait pour conquérir des gens. C'est l'idée de Clausewitz. Mais simplement, pour conquérir des gens, avant, il fallait conquérir les territoires, parce que les gens se trouvaient sur les territoires. Maintenant, on n'a plus besoin de conquérir les territoires pour conquérir les gens. Il suffit que tout le monde se mette à utiliser Alibaba pour vendre du fromage aux Chinois. Et vous êtes déjà une colonie, quelque part, de la Chine. Et donc, la question, c'est est-ce qu'il y a un modèle alternatif que l'Europe pourrait promouvoir? Je vais vous faire une confidence. La personne que j'ai rencontrée qui m'a le plus épaté sur ce sujet, c'est Margrethe Vestager, pour qui j'ai vraiment, depuis cet entretien, une admiration très forte.
Ah oui, ça crée bonne
femme. Et je suis vraiment ravi qu'elle ait ce portefeuille à la commission concurrence et numérique, parce qu'elle a vraiment pensé jusqu'au bout tous ces enjeux. Et le droit de la concurrence, pour elle, c'est pas seulement un instrument économique, ça va bien au-delà. C'est un instrument philosophique pour nous permettre de conserver justement une forme de liberté. Et de ce point de vue-là, l'option que je défends, que je défendais déjà, mais ce voyage m'a complètement convaincu, c'est celle de la propriété privée des données personnelles. En disant, si vous
contrôlez... Parce que ça, pour le coup, j'ai lu ça dans votre livre, mais Comment on organise ça? Voilà, c'est un peu toute la question.
Ben, l'idée, c'est rétablir le libre-arbitre tout en utilisant les systèmes d'IA, sans se mettre complètement en résistance, en dehors, etc. Parce que ça, c'est un peu utopique et ça sera toujours marginal. C'est comment je fais pour, si vous voulez, choisir mon nudge. Disons, je ne suis pas comme ça, ouvert à tous les vents, mais j'impose mes propres critères, y compris si ça détraque un peu ou si c'est sous-optimal pour les systèmes d'IA. Et pour ça, en fait, la solution la plus simple, c'est de contrôler le flux de données. Parce que c'est ça qui rend ces systèmes efficaces et qui leur permet de nudger. C'est le flux de données. Donc, je contrôle mon flux de données sortant en disant, bah, j'ai établi mes propres préférences en exerçant justement mon choix, y compris si ces choix sont des erreurs. Et ces préférences impliquent que voilà, je confie certaines datas à certains systèmes et pas à d'autres. Et pour ça, il faut évidemment une organisation, mais sur laquelle beaucoup de startups et d'entreprises commencent à réfléchir, notamment de smart wallets, où on a, nous, le contrôle des data, et ce sont les sites et les plateformes extérieures qui viennent nous cocher et cliquer nos terms and conditions. Et je pense que c'est d'abord un enjeu économique pour rétablir la chaîne de valeur, mais c'est aussi un enjeu métaphysique pour retrouver notre libre arbitre et, au fond, notre dignité.
Merci beaucoup. En tous les cas, c'est vraiment un livre très intéressant parce qu'on est vraiment au cœur de toutes ces réflexions aujourd'hui. Et là, vous nous aidez à nous faire notre propre opinion, en l'occurrence. Merci beaucoup. La fin d'individu, Gaspard Koenig, Voyage d'un philosophe au pays de l'intelligence artificielle. Et bien sûr, c'est aux éditions de l'Observatoire. Merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, c'est l'ancien président de la Banque Centrale Européenne, Jean-Claude Trichet, qui est avec nous pour cette dernière réunion de Mario Draghi à la tête de la Banque Centrale Européenne. Est-ce qu'on faut s'attendre à un coup d'éclat ou pas? On voit ça dans un instant.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité, c'est Jean-Claude Trichet, ancien président de la Banque Centrale Européenne. Merci d'être avec nous, Jean-Claude Trichet. J'ai envie de dire, c'est un peu le jour J, il fallait être là au moins aujourd'hui, puisque c'est la dernière réunion de politique monétaire de votre successeur, Mario Draghi. Je vais pas user ma salive à vous demander qu'est-ce qu'il va faire tout à l'heure ou pas. Ça, je suis sûr que vous ne pourrez pas me répondre. En revanche, c'est intéressant de savoir si... est-ce que la politique monétaire, elle est un peu dans une impasse aujourd'hui?
Alors d'abord, en effet, je ne vais pas dire autre chose que j'ai une confiance totale dans le Conseil des gouverneurs qui va prendre une décision dans des conditions qui sont effectivement compliquées, à la fois en Europe, mais aussi partout dans le monde. Et donc, on a effectivement une demande vis-à-vis des banques centrales qui, en ce moment, est vraiment considérable. Et mon principal message est certainement qu'il ne doit pas y avoir seulement les banques centrales, exerçant leurs responsabilités. Elles l'ont fait très bien, elles le font très bien, et elles vont le faire très bien dans des circonstances qui sont difficiles. Qui sont d'ailleurs encore plus difficiles, peut-être, aux États-Unis, pour des raisons de relations avec l'exécutif, que ce n'est le cas en Europe. Ceci dit, il y a d'autres partenaires, il y a des gouvernements, il y a des parlements, il y a des politiques budgétaires, il y a des politiques de réforme
structurelle. On est d'accord là-dessus, c'est votre message.
Et il y a des partenaires sociaux qui définissent eux-mêmes, si vous voulez, les augmentations au total des coûts unitaires de production. Et là, tout ça, ça fait beaucoup de partenaires qui ont beaucoup de responsabilités.
On est d'accord, c'est un message que vous portez souvent, Jean-Claude Trichet. En même temps, là, on se demande, la politique des taux bas qui a été conduite, certains disent, et par les moins incultes, qu'on est vraiment dans une impasse, la politique monétaire est une impasse. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il faut un stimulus? Est-ce qu'il faut, d'une manière ou d'une autre, une action forte pour relancer la croissance en France? Et en plus, on voit, et en Europe, on voit quand même qu'au sein même de ce Conseil des gouvernements, il y a des voix qui sont un peu discordantes. Donc on voit que c'est pas si simple.
Il est évidemment normal qu'il y ait des sentiments différents dans toutes les banques centrales du monde, au sein des conseils des gouverneurs ou des open market committees aux États-Unis. On a effectivement des voix qui échangent leurs arguments, et c'est très bien. Parce que les décisions ne sont pas prises par un dictateur, les décisions sont, contrairement à ce que souvent on accrédite, elles sont prises bien entendu par un collège et par une confrontation, disons, des points de vue. Mais, disons-le très net, lorsqu'on critique les banques centrales, et c'est devenu très fréquent, on fait comme si on savait à l'avance ce qui se serait passé si les banques centrales n'avaient pas pris les décisions qu'elles ont prises. Et à l'évidence, en tout cas de la, le sentiment le plus répandu, est qu'évidemment, on aurait alors observé des phénomènes beaucoup plus graves qu'aurait porté un très grand préjudice à nos concitoyens dans, le monde, dans, dans l'ensemble, disons, des pays avancés, et on aurait donc eu des conséquences extrêmement graves. Ceci est très important. Il faut bien toujours mesurer ce qu'étaient les dangers.
Oui,
et la matérialisation du risque de déflation est un danger évidemment considérable dans tous les pays avancés.
Oui, mais maintenant, la question est, et on l'entend vraiment, Bruno Le Maire à ce même micro le disait, mais pas que, c'est que la politique des taux bas, non seulement maintenant on voit bien qu'elle est inefficace en termes justement de stimulus de la croissance, mais qu'en plus, elle a des conséquences très lourde sur le système bancaire et, sur le, et à terme sur l'épargne des Européens.
Toutes les décisions qui sont prises par les banques centrales, encore une fois partout dans le monde, sont des décisions qui effectivement, au total, sont considérées par les conseils des gouverneurs comme étant optimales dans des circonstances très difficiles. Elles ont évidemment un certain nombre d'inconvénients.
Voilà. Mais là, est-ce qu'on est dans une impasse ?
Il n'y a pas de doute là-dessus, oui. Ce qui me conduit à renforcer mon appel aux autres partenaires.
D'accord. Mais là, est-ce qu'on vous dit, c'est la fin d'une politique de taux bas ? Est-ce qu'on est, on doit sortir de cette politique monétaire ? C'est ça la question. Là, vous pouvez répondre, Jean-Claude Trichet.
Je ne peux que répondre. On va voir ce qui va être décidé.
Mais non, mais vous êtes un économiste, vous êtes président, ancien président de la Banque Centrale Européenne.
Jusqu'à présent, je considère, encore une fois, que les décisions qui ont été prises en Europe, et je dirais, pour simplifier, un peu partout dans les grandes banques centrales, y compris en Suisse, y compris en Suède, y compris au Danemark, il n'y a pas que la Banque Centrale Européenne, je dirais que ces décisions ont été les meilleures possibles dans des circonstances profondément anormales.
Ok, là, non, on est dans une situation anormale, avec des taux négatifs.
Oui, on est dans une situation anormale, elle n'est pas créée par les banques centrales. Cette situation anormale est créée par l'ensemble, disons, de l'évolution économique, multidimensionnelle des pays avancés, elle conduit à des phénomènes qui conduisent les banques centrales à essayer d'éviter la matérialisation du risque de déflation.
Oui, ok. Mais enfin, maintenant, est-ce que vous dites on a atteint le bout de cette logique ?
Allez, on va voir ce qui va se passer dans quelques minutes. Il est probable qu'on ne va pas voir le bout de cette logique, précisément. Donc, encore une fois, ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire. Mon message est, les autres partenaires ont leur responsabilité à prendre. Et on peut dire un mot des autres partenaires. Il y a évidemment des responsabilités budgétaires, particulièrement en Europe, dans certains pays. Et en effet, si un certain nombre de décisions ont été prises, ça soulagerait la Banque centrale. C'est clair. Ces pays qui sont des pays à plein emploi et à marge de manœuvre budgétaire importante. Il y a des...
Suivez notre regard, évidemment, allemand vers l'Allemagne.
Des réformes structurelles à faire absolument partout, sans aucune exception, y compris, bien entendu, dans notre pays. Il y a un certain nombre de conséquences à tirer du fait que nos coûts unitaires de production, dans tous les pays avancés, croissent anormalement. Mon sentiment est que dans les pays à plein emploi, la capacité de négociation des travailleurs, des employés, de l'ensemble des salariés a diminué considérablement.
Oui.
Ils privilégient leur job, et on comprend bien pourquoi, par rapport aux augmentations de salaire. Je parle pour l'Allemagne, je parle pour les Pays-Bas, je parle pour les États-Unis, je parle pour le Japon, et en France et en Italie, c'est autre chose parce qu'on a encore un chômage de masse. Donc je pense qu'il serait très très mauvais que notre compétitivité coût soit entamée en France, en Italie. Mais dans les pays à plein emploi, normalement, on devrait avoir plus d'augmentation de salaire.
Ouais,
c'est clair.
Ouais,
c'est très 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 important.
Ouais. Jean-Claude Trichet, je voudrais juste un instant faire un tout petit peu de psychologie. Tout ce que vous détestez, mais j'ai quand même fait un petit peu de psychologie, puis c'est intéressant. C'est donc la dernière réunion, de Mario Draghi. Vous, ça vous est arrivé lorsque vous avez quitté la Banque Centrale Européenne. Est-ce qu'on a une petite tentation de faire, c'est pour ça que certains parlent d'un coup d'éclat, est-ce qu'il y a un... On a envie de sortir par le haut et donc on peut éventuellement, la psychologie peut avoir une influence sur la décision de politique monétaire.
Je dirais normalement non.
Oui, mais enfin,
évidemment.
Bon. Oui,
ne serait-ce d'ailleurs que parce que les décisions, et vous l'avez dit vous-même, sont collégiales et basées sur la confrontation, disons, des points de vue et une décision qui, en dernière analyse, repose sur la collégialité profonde de toutes ces décisions. Et heureusement.
Oui.
Ceci dit, bien entendu, on vit cette période après avoir vécu pendant 8 années une période, disons, très intense, incroyablement intense, parce que c'est l'une des deux grandes banques centrales du monde, c'est l'un des deux centres de décision fondamentale dans l'économie mondiale intégrée, et le moins qu'on puisse dire, c'est que pas plus que moi, n'a été privé de défis incroyables pendant toute cette période.
Et donc, vous pensez qu'il y aura peut-être un côté un peu psychologique aujourd'hui
Non, va rentrer... je dirais, si je me réfère à ce que je sais de Mario Draghi et à ce que je sais de ce que j'ai éprouvé moi-même, certainement un sentiment très intense, mais qui n'influera pas les décisions.
Est-ce qu'il... on va parler de conjoncture, de stimulus, hein, justement, parce que beaucoup réclament justement un stimulus dans la décision, les décisions qui vont être prises. Est-ce que... on a l'impression que Keynes est totalement retour, et là, on parle de relance budgétaire, il faut que ça soit les Allemands face de la relance budgétaire, même en France, et qu'avec cette politique de taux bas, c'est vraiment le moment d'en faire. Qu'est-ce que vous répondez ?
Non, je réponds que c'est le moment d'en faire, peut-être... Dans les pays qui ont des marges de manœuvre et qui ont des marges de manœuvre importantes, ce qui est évidemment le cas en Allemagne et ce qui est le cas dans quelques autres pays, mais pas très nombreux. Pour les pays qui n'ont pas beaucoup de marges de manœuvre, il faut faire attention parce qu'un jour ou l'autre, il y aura un réveil des marchés, un réveil des taux d'intérêt
Oui, mais les taux sont tellement bas. Gérald Darmanin, le ministre du budget, l'a dit lui-même.
Ils ne le seront pas éternellement.
À court terme, ils le sont.
Vous savez, j'ai connu l'époque où la Grèce n'avait aucune espèce de problème de financement d'aucune sorte. Et puis, un jour, les choses ont changé. Donc, il faut avoir une vision, si vous voulez, à moyen terme et à long terme.
Voilà, mais qu'est-ce qui est plus important aujourd'hui ? Est-ce que c'est de relancer la croissance aujourd'hui ? Parce qu'elle est insuffisante.
Ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on ait, de manière complexe, des pays qui soient tous au plein emploi. Et nous sommes loin d'être au plein emploi les uns et les autres. Comme vous le savez, ce n'est pas le cas en France. Même s'il y a beaucoup de progrès qui sont réalisés en ce moment, on est encore loin du plein emploi, en tout cas du plein emploi tel qu'il est observé chez nos voisins d'outre-Rhin, ou aux États-Unis, ou au Japon, dans les autres grands pays avancés, ou en Suisse, ou dans d'autres pays. Donc, on a beaucoup de travail à faire de ce point de vue-là. Et le problème principal que je vois, pour nous, est certainement de renforcer nos réformes structurelles. Le gouvernement y est engagé et c'est très bien. Et d'autre part, d'être attentif à nos coûts, d'une manière générale, dans l'économie. Mmh. Y compris, bien sûr, les coûts collectifs, c'est-à-dire les dépenses publiques en général. Mmh. Donc on a beaucoup de choses à faire. Mais au niveau que nous avons actuellement... avec la politique accommodante de la Banque centrale, c'est évidemment pas là que se trouve la source principale nous permettant de sortir de la situation
difficile. Pour vous, le quantitative easing, c'est fini ?
Non, j'ai pas dit ça. Je n'ai absolument pas dit ça.
D'accord.
Non ? On va voir. Ils vont prendre la décision dans très peu de temps maintenant.
Oui. Est-ce que vous avez le sentiment que les gouvernements ont pris un peu la mesure de ce qu'il fallait faire ? On prend la réforme des retraites, par exemple, en France. Hein, on va rester un instant en France, Jean-Claude Trichet. Est-ce que cette réforme des retraites, pour vous, elle va dans les réformes à laquelle vous aspirez?
Oui, bien sûr. C'est un élément, un volet de l'ensemble des réformes structurelles que le gouvernement aborde. C'est pas le seul, mais c'est un volet évidemment important, comme l'ont été d'ailleurs les volets très importants de réforme du marché du travail, et dont on voit d'ailleurs un certain nombre de conséquences, me semble-t-il, en ce moment dans le dynamisme de la création d'emplois, en dépit d'une croissance qui reste relativement faible. Si on dit un mot de conjoncture, d'ailleurs, noter, parce que c'est très important, qu'en effet, on a un pays, la France, qui se comporte mieux que d'autres, en ce moment même, ce qui n'est pas tellement étonnant parce qu'on est moins couplé au marché mondial, et chaque fois qu'il y a un ralentissement important du marché mondial, la France se comporte un peu mieux que les autres, et certainement mieux que l'Allemagne, qui est très très dépendante du commerce international. Ça, c'est un point. Ça veut dire aussi que lorsque le commerce international reprendra, on sera un peu en retard sur les Allemands, donc il ne faut pas en tirer de conclusion définitive. Mais ce qui est sûr, c'est que l'Europe est plus dépendante que les États-Unis du commerce international.
Oui, c'est
nettement plus dépendante. Ouais. Et donc, quand les Américains font joujou avec la méfiance mondiale et joujou avec le commerce international, nous en souffrons plus. Et c'est la raison pour laquelle nous devons être très acharnés à défendre le multilatéralisme et le commerce mondial.
Oui, c'est sûr que nous, on est en première ligne. Et puis, en plus, on a du mal à s'affirmer, justement. Est-ce que c'était très alarmiste par rapport à une crise financière en disant elle va arriver. Évidemment, elle arrivera bien un jour. Mais est-ce que c'est à court terme ou à quelle échéance voyez-vous arriver cette crise financière? Et d'où la voyez-vous arriver? Est-ce que c'est de nouveau par les crédits immobiliers qui atteignent des sommes absolument considérables? D'où vous la voyez venir?
Si quelqu'un vous dit « je sais quand va éclater la prochaine crise financière », considérez-le comme un charlatan absolu.
Non, mais vous voyez, une question, c'est sûr que dans le siècle, il y a une chance qu'il y ait une crise financière, mais bon.
Il y a un indicateur que je regarde avec attention, c'est la durée de la croissance continue aux États-Unis. Ça fait maintenant à peu près 123 mois, un peu plus de 123 mois, que nous avons croissance ininterrompue aux États-Unis. La croissance ininterrompue la plus longue depuis la Deuxième Guerre mondiale a été de 120 mois, c'était de 91 à 2001. Donc 10 ans. Donc on est en train de dépasser le record depuis la Deuxième Guerre mondiale sur la croissance continue aux États-Unis. Je ne crois pas que les arbres montent jusqu'au ciel, et donc je crois qu'à un moment ou à un autre, on aura une phase dépressive du cycle. C'est probablement l'indicateur le plus sûr qui nous permet de dire, attention, à un moment ou à un autre, il y aura une phase dépressive du cycle aux États-Unis. Alors ce que je redoute terriblement, c'est que nous-mêmes, nous serons sous la contagion des États-Unis à ce moment-là. Je ne sais pas quand, mais à ce moment-là, parce que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Et ce sera très dommage pour nous parce que nous sommes décalés par rapport au cycle américain, je parle des Européens, d'environ 3 ans et demi, 4 ans. Donc nous ne devrions pas interrompre notre propre croissance. Mais il y aura le choc des États-Unis et nous serons probablement sous une contagion, disons, redoutable. Et là, alors, il y aura effectivement pour l'Europe un défi considérable.
Une question sur l'euro par rapport au dollar. Il y avait ce week-end, je ne sais pas si vous y participez, les rencontres d'Évian qui se tiennent dans le plus grand secret entre les Français, les Allemands. Emmanuel Macron était là, a prononcé un grand discours. Il y avait aussi Michel Barnier sur le Brexit et puis les plus grands chefs d'entreprise. La question, en fait, a tourné essentiellement les discussions, savoir comment faire pour que l'euro soit aussi une monnaie de référence et notamment permettre aux Européens d'aller négocier, travailler en Iran ou dans d'autres pays qui, pour l'instant, sont sous embargo américain. Est-ce qu'un jour, l'euro aura cette capacité ?
L'euro est déjà une monnaie internationale.
Oui.
C'est déjà une monnaie internationale qui est extrêmement utilisée. Pas autant
mais
que
mais
les
vous
États-Unis,
voyez bien la question, oui.
Mais en termes de transactions, presque autant que les États-Unis. Donc le problème principal que nous avons, c'est que le marché américain, le marché de New York, est beaucoup plus profond et liquide parce qu'il y a une seule signature
derrière. Oui, mais c'est les questions
derrière. C'est ça la question.
Oui.
Il y a une seule signature derrière le dollar qui est celle du Trésor des États-Unis, aussi bien pour les bills, les bons, que pour les obligations. En Europe, vous avez beaucoup de signatures. Et donc, vous n'avez pas, du point de vue d'un investisseur, d'un épargnant mondial, d'une entité financière mondiale, vous n'avez pas du tout la même liquidité aux États-Unis et en Europe. Et donc, on va voir comment l'Europe va évoluer. Mais bon, on est encore loin, évidemment, d'une signature européenne unique. Il y a des signatures européennes, mais elles sont relativement modestes.
Et c'est pour ça qu'on est toujours dans l'impasse.
Donc, il n'est pas anormal que nous soyons dans cette situation, même s'il y a encore beaucoup d'efforts à faire. C'est un effort que tous les Européens doivent faire.
Oui, à mon avis, ça sera sans doute à la feuille de route de la nouvelle Commission européenne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Jean-Claude Trichet, donc ancien président de la Banque Centrale Européenne. Voilà, c'est la fin de l'heure H. Là, vous retrouvez tout de suite les experts Nicolas Dose. Et puis surtout, à 14h45, et bien donc le début de la conférence de presse de Mario Draghi, la dernière conférence de presse de l'actuel président de la BCE. Bonne journée.